pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Stéphane Vincent est bibliothécaire dans un collège à Genève. Pour ses élèves, il a créé une page dans laquelle il leur explique à quoi sert la lecture. La devise de Stéphane Vincent, c'est « Ouvre un livre, il t'ouvrira ». Aux collégiens, il fait donc une liste des bienfaits de la lecture. « Tu ne connais pas encore ce plaisir, leur dit-il, ce n'est qu'une question de temps et de volonté. Tu le trouveras en cherchant un peu. Ne sois pas comme ces enfants qui disent « j'aime pas » avant d'avoir goûté. N'hésite pas à demander conseil aux bibliothécaires, à tes enseignants ou à des camarades qui lisent au lieu de les traiter d'intello pour te rassurer. Il faut que le déclic se produise avec un livre et tu ne voudras plus t'en passer. » Une personne qui aime lire ne s'ennuie jamais, poursuit-il. Dans le bus, dans une salle d'attente, dans un parc, on peut lire presque partout et durant toute sa vie. Lire te servira aussi pour préparer ton avenir, améliorer tes performances scolaires, pour faire des études, pour lutter contre l'exclusion sociale, précise-t-il. Celui qui n'aime pas lire part dans la vie avec un véritable handicap, à l'école déjà, et ensuite, lorsqu'il va chercher du travail, et enfin, lorsqu'il en aura trouvé un pour le garder. Lire, c'est aussi la liberté, dit Stéphane Vincent, le bibliothécaire. Tu veux être acteur de ta vie ou simple figurant ? Pour être vraiment libre, il faut être informé. Et comme il est suisse, Stéphane Vincent, il précise qu'il faut lire pour pouvoir voter. Le citoyen libre que tu voudrais devenir sera invité à donner son avis lors de votations et d'élections. Comment assumer cette liberté si tu as peur de lire quelques lignes et si tu n'y comprends rien ? Enfin, il conclut, la lecture est une arme contre les manipulations politiques, religieuses, commerciales, sociales. Il est en effet plus difficile de faire croire n'importe quoi à une personne qui lit et développe son esprit critique. Toutes les dictatures s'appuient sur l'ignorance des gens et l'absence d'esprit critique. À aucun moment de sa présentation, toutefois, Stéphane Vincent ne dit que lire ne sert à rien et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est bien. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux histoires autour de la rage de lire, du besoin de lire. Lire c'est vivre, à quoi ça sert la lecture? C'est jusqu'à 14h, deux récits racontés par Judith Chétrit.
En réalité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a un matin que je me suis réveillé, je dis... Non, faut que j'arrive à faut que j'apprends à lire, à écrire et comme il faut pour retrouver quelque chose de bien, quelque chose de correct, parce qu'autrement, j'allais me poser des questions. J'ai perdu mon emploi à 47 ans, la boîte est fermée, la dame du tribunal me dit « Ah ouais, mais de toute façon, vous savez pourquoi vous êtes là ?» Ben, je dis « C'est liquidation judiciaire, il n'y a plus rien, il faut payer les fournisseurs et tout ça. » Ben, elle m'a dit « Oui, vos patrons, ça y est, ils vont arrêter. » Et du coup, la boîte, elle a fermé, puis voilà. Là-bas, je servais du vin à la tireuse. Elle servait du vin, et puis j'allais porter les cubis dans les voitures et tout ça. J'allais chercher les cartons en réserve et tout ça, voilà. Et quand ils m'ont embauché au marchand de vin, ils m'ont pris un mois à l'essai. Et puis après, ils m'ont dit, bon, on va voir le patron de la coopérative. Et quand on a vu le patron de la coopérative, il est monté dans le nord, il a venu, il a dit, ouais, ben, on va y faire un contrat, on va l'embaucher. Et j'étais embauché, mais moi, j'ai jamais vu mon contrat. Et un jour, là, j'ai dit à mon patron, je dis, bah, il faudrait qu'elle voie mon contrat. Oui, on va te le donner, on va te le donner. Et ils ne me l'ont jamais donné. Alors, je n'ai pas su faire. Et alors, j'ai dit, bah, je suis en temps complet. Oui, je travaille la journée complète. Et puis, et pour finir, ce n'était pas en temps complet. Je travaillais en temps complet, ils me payaient à mi-temps. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, un jour, il ne faut pas que je le rencontre parce que mon fusil est prêt et elle veut le flinguer. Et bon, je ne l'ai pas fait, mais je dis, c'est une honte de travailler comme ça, de rouler des gens qui ne savent pas lire et écrire, et de ne pas savoir mieux dire, on va t'apprendre, on va te faire aller dans une école. Il aurait déjà fait comme on fait maintenant, dire, bon allez, tu fais une semaine de boulot, tu vas une semaine à l'école, j'aurais déjà appris tout ça. Et là, et j'avais posé la question, j'avais posé la question à mes anciens patrons. Un patron me dit, ouais, mais non, on ne peut pas, parce que tu sais, il faut laver les culs, il faut être là et tout ça. Oh non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Il voulait pas s'embêter, de toute façon. Pour ça qu'à 47 ans, je me suis défendu. J'ai dit, il faut que je me défende, il faut que j'arrive à lire, à écrire. Et puis, voilà. J'ai pris le taureau par les cordes et puis j'ai dit, il faut que j'y vais. Du coup, j'étais voir les sans-emploi et tout ça. J'étais voir les assédiques. Et puis, je me suis inscrit, je dis, viens voir, parce que j'ai perdu mon emploi. Et alors, du coup, ils m'ont dit, bah, on va vous inscrire au chômage. Et j'ai vu une conseillère, elle m'a dit, moi, je vais vous envoyer quelque part pour apprendre à lire et écrire. Et puis, vous irez, puis vous voyez. Alors, j'étais présenté, puis j'ai été voir. J'ai arrêté l'école à 16 ans, puis après j'ai été apprendre le métier du bâtiment. À 16 ans, je ne savais pas lire ni écrire. Je savais à peine compter jusque 10, et je ne savais rien du tout. J'avais même du mal à écrire mon nom, mon prénom. J'arrivais, mais je faisais corder, j'écrivais très mal. Je faisais des rayures sur mon cahier, je faisais plier les feuilles. Je faisais pas attention à mes cahiers, à mes livres. Je rendais des livres à l'école, ils étaient tachés, ils étaient tout ça. Comme métier, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la menuiserie, j'ai travaillé dans le vin, j'ai travaillé en espace vert à Ono, chez à Synergie. Quand j'allais voir mes employeurs, je disais rien au début. J'avais du mal à dire que je savais pas lire et écrire. Elle me cachait plutôt que de le dire. Ou soit quand il y avait un dossier à remplir, j'allais chez un bureau, n'importe, faisait semblant, je disais, bah, j'ai oublié une lunette, vous pourrez pas me le remplir. Alors, il me le remplissait, puis ça passait toujours à l'as comme ça, mais après, eux, ils se sont aperçus que je savais pas lire et écrire. On développe des actus quand il y a une nitrée. Moi, je me repérais avec des... Ou qu'il y avait un panneau, qu'il y avait une arche, qu'il y avait une chapelle. Je dis, ah oh, tiens, j'ai déjà passé là. On aurait dit, comme c'était comme un petit poussé, pour arriver à se retrouver, pour arriver à dire, tiens, j'ai repéré ça. C'est là que je dois passer. Voilà. Pour savoir lire et écrire dans ma vie personnelle, ça m'a coincé beaucoup de choses. J'ai dû faire les courses pour repérer regarder sur les boîtes, qu'est-ce qui est marqué, comment on peut faire cuire ça. Je regrette et je dis, ah, j'aurais pu apprendre à lire, à écrire comme il faut, j'aurais pu faire un bon métier, tout ça. Mais là, bon, c'est comme ça, faut pas repartir à l'arrière. Faut mieux y aller, on dit toujours, faut mieux y aller à l'avant, et puis faut t'engager, faut que tu y vas, et puis voilà. J'avais mal appris à l'école, je voulais pas foutre le bordel à l'école, je voulais pas apprendre. Et du coup, la maîtresse, elle me disait, bah, tu veux pas, on va appeler le directeur, et puis on va te mettre aller te balayer la cour, et puis j'allais balayer la cour, et puis là, j'étais heureux. Je cassais mes crayons, je cassais tout, et puis voilà. Et quand je rentrais le soir chez moi, ma mère, elle me disait, allez, t'as des devoirs, allez, faut faire ça. Et mon père, il me disait, de toute façon, tu verras, si tu sais pas lire et écrire, on va t'appeler Ninetré, Baudédane. Et on m'appelait Ninetré, on m'appelait Baudédane. Regarde, Ninetré, qu'il y a Ninetré qui arrive et tout ça. Moi, pour moi, c'est très grave. C'est la connerie monumentale que j'ai fait, parce que j'aurais su savoir lire et écrire, j'aurais pu avoir mon permis. J'aurais pu avoir une voiture, et là, je me retrouve sans rien. Bon, j'ai un scooter, ça, c'est déjà pas mal, j'ai déjà ça. Mais j'aurais pu, quand je vois des copains que je connais, ils sont au-dessus de moi. Moi, je suis vraiment en bas de l'échelle, et eux, ils sont partis en haut. Moi, je connais un copain, maintenant, il est ingénieur, et il a bien appris, là. Il a fait des métiers, il a appris comme il faut, il était dans une grande école. Moi, quand il l'a revu une fois, il m'avait dit, tu vois, tu t'aurais suivi avec moi, tu aurais appris, Ben, je dis ouais, ouais, c'est vrai que t'as raison. J'ai laissé tomber. Quand je suis arrivé à l'association Monts et Merveilles, j'ai appris avec des livres, mais en grosses lettres. Et je voudrais lire, je voudrais bien savoir lire vite fait comme n'importe qui. Mais moi, dès que je lis, elle veut aller trop vite. Elle me dit, tu vois, tu as sauté une ligne parce que tu vas aller trop vite. Tu veux... Alors, et autrement, je suis content. Ça va me droit au cœur parce que je suis content d'avoir, d'avoir appris à lire, à écrire. Et écrire, j'ai encore du mal. Ça va, j'arrive à écrire mon nom, tout ça. Avant, j'arrivais pas, je faisais beaucoup de fautes et tout ça. Ben, c'est, prendre à 47 ans, c'est dur. Pour moi, c'est fort dur. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de... Les enfants, et eux... Sur un an, ils apprennent vite, mais nous, comme on est adultes, moi, ça fait 9 ans que j'apprends à lire, à écrire, et je veux continuer parce que je veux bien savoir bien lire et écrire, et puis comme ça, je veux continuer, voilà. Le livre que... j'ai commencé à le lire, c'est La chef de Monsieur Seguin. Et je voudrais bien le lire à l'entier et ça me ferait plaisir parce que ça, c'est une chef qui me fait mal au cœur de la voir, qu'elle va dans le bois, dans la montagne et qu'après elle se fait manger par le loup, tout ça. Alors. Bah, les changements dans ma vie, j'ai voulu. J'ai voulu partir, j'ai voulu déménager. Et je voulais partir à Aulnois. Et je dis, je vais prendre mon indépendant. Avant, je vivais avec mes deux frères à Aulnois. Et maintenant, je vis à Aulnois, dans l'appartement, tout seul. Et je suis bien, j'ai installé tout. J'ai pris de ma force à moi, j'ai pris mon indépendant, j'ai dit, une fois j'ai dit à ma soeur, de toute façon, moi j'ai dit, vous emmerde. À Aulnois, j'irai, et je suis venu, et j'ai bougé, j'ai parti, j'ai pris mes. Ils sont ramenés, ils ont ramené mes meubles, ils ont tué, et me suis installé tout seul. Tout ce qui m'arrive là, maintenant, je suis content parce que, enfin, c'est arrivé, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai pas été marié, j'ai jamais eu d'enfant. Je suis tout seul, je vis tout seul et puis bon... je pense que c'est comme ça, et puis c'est tout. Maintenant, en lisant le journal, je regarde les annonces, et je prends les numéros de téléphone, et puis je téléphone, et puis bon, bah. Et une fois, c'est le répondeur, alors il laisse un message. Bon, on me répond pas, mais bon. Et une fois, j'ai appelé une dame, et puis elle m'a dit, bah, excusez-moi, monsieur. Elle me dit, j'ai trouvé quelqu'un hier.
Sculpture, les pieds sur terre.
J'ai tout de suite aimé lire. Je me cachais le soir sous mes draps pour dormir. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mon carnet de santé, à 7-8 ans, j'avais du mal à dormir. parce qu'en effet, je passais mon temps le soir à me cacher à lire. Et ma mère me disait, mais tu dors toujours pas, il est 11h, il est minuit. Mais elle ne savait pas qu'en fait, je lisais sous mes couvertures. Et donc, en effet, j'avais des problèmes de sommeil, mais parce que je lisais très tard le soir. Alors, je m'appelle Ali Join et j'ai 41 ans. J'habite Dieppe, j'ai deux petits garçons, un mari, un chat. J'ai grandi à Varengeville-sur-Mer, un village plutôt huppé de la côte normande. Mes parents ont divorcé et là, je suis arrivée avec ma mère et mon frère dans un tout petit village près de chez mes grands-parents, vraiment dans la campagne plutôt profonde, enfin à 15 km de Dieppe, en tout cas sans transport en commun. Et donc, on était un peu isolés, finalement, culturellement, de toutes les activités qu'on pouvait faire après l'école, la musique, le sport, etc., puisqu'il n'y avait rien et que ma mère nous laissait très tard le soir à l'école et nous déposait très tôt le matin. À Torcy-le-Grand, donc au-dessus de la mairie, comme dans plein de petits villages, j'imagine, il y avait une bibliothèque municipale qui ouvrait le mercredi après-midi, je ne sais même pas si c'était toutes les semaines. Et en effet, le choix de livres, c'était pas très diversifié. En fait, il y avait des albums jeunesse, mais surtout un grand choix finalement de livres un peu sentimentaux, Daniel Steele, etc., dans laquelle j'allais évidemment. Mais finalement, on en fait vite le tour de toutes ces histoires d'amour, surtout quand on a 13-14 ans et qu'on comprend pas très bien où les personnages ont l'air d'aller et de quelle manière ils y vont en tout cas. Ça me semblait loin de ce que j'avais envie de lire, mais en même temps, je ne savais pas ce que je pouvais lire d'autre. Jeune adolescente, je pense que j'ai dû poursuivre ma quête du livre superbe à la bibliothèque en continuant à lire un peu tous les livres sentimentaux. Et progressivement, en fait, l'école m'offrait pas non plus l'ouverture, en tout cas au collège, vers des livres que j'aimais. Cro-Blanc, etc., ça m'ennuyait profondément, les récits d'aventure, c'est pas non plus vraiment ce que j'avais envie de lire. Et ce qui fait que je lisais vraiment tout ce qui me passait par la main. Je pouvais être capable de relire mes livres d'enfants aux bibliothèques vertes avec avidité, comme commencer là à entrer aussi dans les romans un peu plus complexes, avec des auteurs un peu plus reconnus de ma mère. Mais toujours avec cette envie de découvrir toujours autre chose, j'avais l'impression que j'étais insatisfaite, parce qu'en effet, je crois que j'ai vraiment mis très longtemps à découvrir des livres qui me plaisaient. Un auteur, une référence sur laquelle je pouvais continuer ma route de lectrice, en fait. Et donc, entrée au lycée, le vendredi midi, ma mère, je devais commencer un peu plus tard, vers 14h, et ma mère m'avait dit, mais si tu veux, je vais dans l'hypermarché du coin qui s'appelait Mammouth à l'époque, tu viens avec moi faire les courses. Et donc, je fais les courses avec elle, je choisis des livres, j'en emmène un dans ma main. On passe la caisse et en sortant, je me dis « Oh, regarde maman, j'ai emmené mon livre » et c'était un Agatha Christie. Il m'attirait juste parce que la couverture était jaune et que c'était pas le même que les autres. Elle me dit « Oh, tu l'as volé ?» Alors j'ai pas voulu le voler, mais il est là dans ma main et je l'ai. Et elle me dit « Bon, c'est pas grave, voilà, tant pis, écoute, on s'est pas fait arrêter, enfin, c'est pas très grave, ça peut arriver une fois ». Et donc, mais j'étais heureuse d'avoir un livre entre les mains, parce qu'évidemment, elle refusait jamais de m'en offrir, mais m'offrir un livre toutes les semaines, ça commençait à faire vraiment beaucoup pour son budget. Et j'ai donc pris l'habitude, chaque vendredi, pendant une année scolaire, du mois de septembre jusqu'à juin, d'aller voler un livre le vendredi midi dans le Mammouth du coin. J'attendais toute la semaine le vendredi. Toute la semaine, une fois que j'avais... déjà, je finissais mon livre, en général, avant le dimanche. Donc, il me restait quand même 5 jours à tenir pour en avoir un nouveau. Donc, en fait, j'observais les autres publications, voilà, ce qu'elle a écrit d'autre dans cette édition, etc., Agatha Christie, ce qui a été publié. Et j'étais déjà en train d'anticiper qu'est-ce que je pourrais lire, lesquels je barrais consciencieusement ma petite liste, parce qu'évidemment... À la fin, je savais plus trop ce que j'avais déjà, quand même. Et il fallait pas que je loupe mon coup, parce que j'allais pas voler 2 fois le même livre. Ça aurait été vraiment un coup perdu. Et donc, j'ai eu toute la collection d'Agatha Christie. Il y en a un paquet. Et puis après, j'avais entamé aussi la collection d'Ex Braya. Et au total, je pense que j'ai dû voler autant de livres que 2 semaines d'école dans cette année de seconde. C'est-à-dire peut-être une 30aine, 35, 40, 40 livres en une année. finalement, je crois que je me sentais un peu couverte parce que j'étais avec ma mère, parce que on était de bonne foi, qu'on n'avait jamais volé, qu'elle avait fait un gros plein de courses. Mais je me sentais comme protégée par sa présence. Et puis, j'aurais toujours pu lui dire que j'en avais pas fait exprès une deuxième fois, finalement, puisque après, elle me voyait plus, elle faisait plus attention. Et puis, je le faisais avec un naturel qu'on aurait pu croire professionnel, en fait. C'était si facile de partir, parce que personne ne soupçonnerait une ado, on pourrait voler du maquillage, je sais pas, je me disais qu'on pouvait voler des vêtements, mais jamais un livre. Et finalement, je me suis toujours dit que c'était tellement improbable que je me suis autorisée à continuer ces larcins pendant quelques mois. Et je crois, pourtant, j'ai été vraiment élevée dans des valeurs morales assez fortes, mais que jamais je me suis sentie coupable d'avoir volé. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, mon cerveau, il a pas fait la connexion entre le vol et le bien et le mal, ou les valeurs morales, mais c'était... Le plaisir que j'en tirais était vraiment au-delà du jugement qu'on aurait pu porter sur moi. Ma mère me l'avait autorisé une fois, donc après tout, c'est que ça devait pas être si mal. Je crois que j'avais intégré ça comme quelque chose qui n'était pas un péché, quelque chose qui n'était pas hors la loi. Alors, je crois qu'elle m'a pas vue pendant longtemps, en fait. Elle m'a pas vue le faire. Et après, si elle m'a vue, elle s'est bien gardée de me le dire, parce que je pense que vraiment, fondamentalement, ce qu'elle aurait voulu, c'est m'offrir tous les livres que je désirais dans n'importe quelle bibliothèque, que ça soit livre de poche ou grand format. Mais elle pouvait tellement pas, je crois que... Et puis, il y avait une forme de culpabilité de pas pouvoir l'offrir à ses enfants, de pas pouvoir donner les moyens de sa passion, etc. Que jamais elle m'a fait ressentir quoi que ce soit. Et pourtant, je pense que pour n'importe quoi d'autre, elle aurait réprouvé. Et je pense que même elle aurait été la première à me conduire auprès du vigile. Mais elle avait décidé qu'elle fermerait les yeux définitivement sur ça. Et on en a reparlé, mais longtemps après, finalement. Et j'ai découvert longtemps après qu'elle savait. Et qu'elle n'avait jamais rien dit. Au bout d'une année scolaire, j'ai arrêté parce que c'était les grandes vacances et puis que j'allais plus faire les courses avec ma mère. Et je crois qu'après, mon emploi du temps ne me le permettait plus. Mais jamais plus. Finalement, après cette année, peut-être de seconde, je devais avoir 15 ans. Je n'ai volé de livres, voilà, c'était ma parenthèse, enchantée en tout cas, de possession de livres. Ce moment, cette année de ma vie, elle correspond en effet à une parenthèse, mais c'est surtout l'accès à la propriété du livre. Parce qu'avant, j'allais à la bibliothèque et jamais j'avais possédé le livre. Et là, je possédais des livres, chaque semaine un peu plus, et à la fin, j'avais une bibliothèque. En fait, ça m'a fait accéder aussi au rêve de la bibliothèque. Et quand on aime lire, avoir ses propres livres et avoir sa propre bibliothèque, c'est ce qu'on peut espérer presque de mieux. Quand j'ai commencé à voler le livre, ça a été vraiment le début d'une grande passion, mais manifeste cette fois-ci. Elle était plus dans les bibliothèques à marquer mon nom sur un petit bout de papier et l'enregistrer au fin fond de la bibliothèque de Torcy-le-Grand. Là, je montrais aussi qui j'étais et ce que j'avais envie de lire. Et donc, j'ai poursuivi mes études au lycée. Et là, j'ai eu une grande rencontre avec un professeur de littérature. Et je me souviens, à la fin du premier cours, je suis allée la voir en lui demandant est-ce que je pourrais avoir une liste de ce que je dois lire. Je sais jamais, on m'a jamais dit ce que je devais lire. Est-ce que je pourrais lire pour aimer la littérature et plonger vraiment dedans? Et donc, elle m'avait donné une liste d'une cinquantaine, soixantaine d'ouvrages que j'ai longtemps gardés. Et c'était les grands classiques de la littérature et comment rentrer dans la littérature à partir peut-être du 16e, 17e. Alors là, ça a été vraiment l'ouverture vers un monde nouveau. Je trouvais ma place, en fait, intellectuelle dans ce monde. Et ça m'a nourri, cette liste m'a nourri pendant des années. Cette femme est devenue mon amie. Et après le bac, j'ai entamé des études de lettres. J'ai eu une licence, une maîtrise de lettres. Et j'ai décidé donc d'être professeure de littérature. Mais je me suis aperçue qu'enseigner la littérature et aimer la littérature, c'est pas du tout la même chose finalement. Tout ce qui est pédagogique, discipline, etc., m'ennuyait un peu profondément, faut le dire. Et donc, j'ai pas trouvé vraiment ma voie. Alors, je savais pas comment faire vivre ma passion. J'aimais ça, mais même si je suis prof, enfin, c'était compliqué d'en parler. Je me sentais jamais légitime. Et j'avais toujours l'impression qu'il y avait des gens, des intellectuels qui parlaient beaucoup mieux de la littérature que moi. Et ça a été longtemps un gros complexe. Et avec Internet et les blogs, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui parlaient de littérature et qui n'étaient pas forcément doués pour ça, mais qui parlaient juste parce qu'ils aimaient, raconter les livres qu'ils avaient lus. Et je me suis dit, si ces gens-là le font, pourquoi j'essaierais pas? Et donc, j'ai parlé lecture, j'ai échangé des lectures, j'ai ouvert un blog lecture. Je suis très investie à la bibliothèque, mais là, de la grande ville, hein, du coin... dans les rendez-vous lecture, où on suggère des livres, on m'invite quand les libraires viennent présenter leurs livres pour être sélectionnés. J'anime une petite chronique dans un journal gratuit sur des choix de livres. Et en fait, c'est comme si, enfin, à 40 ans presque, c'est comme si j'avais le droit de le faire aujourd'hui, comme si il n'y avait plus cet aspect financier finalement qui bloquait les choses. Ça pourrait être comme une revanche. On m'invite à parler où il y a des portes qui s'ouvrent sur ma passion.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre et La Rage de Lire, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Anne Kobilac. Merci à Daniel Vanet, à Carole Védich, à l'association Mots et Merveilles et à Alice Join. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, nul ne l'ignore. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager, commenter, suggérer, faire tout ce que vous voulez avec nos émissions, nous dire en gros ce que vous en pensez. Vous pouvez également poster des commentaires sur le site des Pieds sur Terre via franceculture.fr ou bien nous adresser des courriels. On attend de vos nouvelles avec impatience.